Luc 18. Rappelons-nous ce qui se passe. Jésus est en route vers Jérusalem. Il y a une espèce de fatalité. Il faut qu'il aille mourir à Jérusalem. Ce n'est pas une fatalité qu'il subit. C'est une mission qu'il embrasse. Et on sait que jusqu'à la fin, ce sera un combat pour lui. Ne soyons pas surpris que des fois, le fait de suivre Christ, c'est un combat. Il y a une réalité spirituelle. Nous savons que ce que nous considérons comme des choses solides, comme le disait un prof de maths quand j'étais en sixième, le solide, c'est du vide qui tourne très vite. Et là, il faisait référence au fait que ce que nous considérons comme des choses tangibles et réelles et solides, sur lesquelles on peut vraiment fonder notre vie, en fait, c'est beaucoup de vide et quelques atomes, quelques électrons qui tournent autour de quelques noyaux. Et donc la réalité spirituelle, la science moderne, ne nous en éloigne pas, bien au contraire. Et nous le savons, nous le vivons bien. Les choses invisibles sont souvent plus visibles que les choses qu'on peut prendre dans les mains, sur lesquels on peut se cogner ou se frapper. Les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Jésus mène ce combat spirituel. Et là, il est en route. Et étant le Fils de Dieu plein d'amour, il ne peut pas s'empêcher de faire des miracles, de guérir, d'encourager, de reprendre, de convertir à lui. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au verset 31. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et il est dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on le maltraitera, on crachera sur lui, et après l'avoir flagellé, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils n'y comprirent rien. Ces paroles leur restaient cachées. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Jésus vient de parler à ce jeune homme riche, ce pauvre jeune homme riche, parce que il est une des rares personnes qui viennent à Jésus, qui le voient, qui lui parlent, qui interagissent avec lui pour repartir loin de lui, seul, vers les choses qui l'idolâtrent, vers les idoles de sa vie. Et dans son cas, c'est celui des richesses, de l'argent. Jésus a cette expression que nous avons commentée, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, la richesse peut être un sérieux obstacle et apparemment personne de riche ne peut être sauvé. Les disciples réagissent parce qu'ils savaient que la richesse était considérée alors comme une bénédiction divine. Et être riche, ça voulait dire qu'on était encore plus proche de Dieu que le commun des mortels. Certains considèrent que c'est toujours vrai, c'est la doctrine de la prospérité qui n'est pas biblique. Ce qui est impossible, Jésus répond, aux hommes est possible avec Dieu. Donc si on laisse les hommes riches, les personnes riches à elles-mêmes, avec leur appétit pour l'argent, pour les richesses, ce serait impossible, aussi difficile que de faire passer l'animal le plus grand dans le trou le plus petit, un chameau dans un tout petit trou d'aiguille. Et comme je disais, moi j'ai des fois du mal à juste essayer de passer le fil dans le chat, C-H-A-S, dans le trou de l'aiguille, à plus forte raison, un énorme animal. Mais on va voir que si ce jeune homme riche est retourné pauvre spirituellement, Jésus va faire le miracle avec un autre homme riche un peu plus loin, de l'amener à la foi. Ils sont en route vers Jérusalem. Nous montons à Jérusalem. Il faut savoir que, dans quelques versets, Jésus va approcher de Jéricho. Jéricho, c'est la ville la plus basse du monde, à moins de 140 mètres d'altitude. C'est dans cette vallée où se trouve la mer Morte, qui est aussi l'étendue d'eau la plus basse au monde. 240 mètres, et le Jérusalem est à 760 mètres. Donc aujourd'hui, on parlerait de rando sportive avec 1000 mètres de dénivelé à faire en 9 heures quand on marchait sans s'arrêter, tranquillement, mais fermement et avec persévérance. Nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet de Fils de l'homme s'accomplira. Encore une fois, il y a des termes qui sont des déclarations de la divinité de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, c'est utilisé dans Daniel 7 pour parler du Messie à venir. Il est dit, tout ce qui a été écrit sur le Messie va s'accomplir. Je suis ce Messie. Ne laissez pas les gens vous dire que nulle part Jésus a dit qu'il était Dieu. C'est dans toutes les Écritures, dans le Nouveau Testament. C'est d'ailleurs bien pour ça que les juifs religieux, les chefs religieux, trouvaient qu'il blasphémait. S'il avait dit « je suis simplement un ami du Messie », il n'aurait pas blasphémé, mais il savait qu'il se déclarait Dieu lui-même. Ça, c'est une caractéristique des sectes. Lorsqu'elles pouvaient reconnaître un groupe comme une secte, lorsque ce groupe ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ. Vous dites, c'était le frère de l'archange Michel, même le frère de Satan, pour certains autres sectes. Les Mormons, les témoins de Jéhovah racontent n'importe quoi sur Jésus. Ils vont vous dire qu'ils sont chrétiens. Dites-leur, vous n'êtes pas chrétiens, messieurs, mesdames. Si vous étiez chrétiens, vous croirez que Jésus est le Christ. N'essayez pas d'entourlouper, de tromper les gens en sonnant à la porte en leur disant que vous êtes des chrétiens. Vous ne pouvez pas revendiquer ce nom. Soyez fermes avec eux. Priez pour eux, mais ne les recevez pas si vous ne vous sentez pas en état de dialoguer avec eux de façon forte et biblique. Tout ce qui a été écrit par les prophètes. Et là, on a dit que les apôtres étaient heureux de suivre Jésus. Il y avait enfin le Messie, le Sauveur, promis par les prophètes qui allaient prendre le pouvoir à Jérusalem. Un peu comme quand Napoléon arrivait à Golfe-Juan, remonté pendant 100 jours pour essayer de reprendre le pouvoir. Ça n'a duré que 100 jours. Mais il était suivi par ces hommes qui en pouvaient plus de l'occupation romaine, qui étaient heureux d'être enfin libérés, un peu comme quand on est supporter d'une équipe de foot qui est très forte, comme le PSG. Bof. On est content d'être du côté du gagnant. Et eux, ils se disaient, nous, on est... Il va leur mettre la pâtée à ces Romains. En plus, ils pensaient que comme ils étaient dans le cercle intime, ils allaient se retrouver à des postes de pouvoir, d'influence. Vous vous souvenez, la femme de Zébédée, la mère de Jean et Jacques, qui voulait demander à Jésus de leur donner des postes de premier ministre et de ministre de l'Intérieur, en termes modernes. Mais il est dit, tout ce qui a été écrit par les prophètes va se réaliser. Et notamment, les prophéties d'Ésaïe, parlant du serviteur souffrant, de celui qui allait être méprisé. Et ça, on peut relire dans Ésaïe 53, si vous voulez vous y tourner. Je lis à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée, parlant de Jésus. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il a été retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et quoiqu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Et là, il reprend les expressions d'Ésaïe 53, il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on le maltraitera, on crachera sur lui, et après l'avoir flagellé, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus est en mission. Il est venu sauver le monde. Nous verrons un peu plus loin, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il ne s'est pas trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Comme bien souvent les victimes d'attentats terroristes peuvent dire c'est la malédiction, la faute à pas de chance. Non, Jésus savait pertinemment ce qu'il attendait, il savait pertinemment ce qu'il faisait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la réaction des disciples. Eux, ils comprennent que dalle. Luc nous dit, utilise trois expressions pour dire ils n'entravent que dalle, ils y perdent leur latin, ils n'ont rien pigé, ils n'ont rien capté. Il nous dit, ils ne comprennent rien. Pourtant, il leur avait déjà parlé, c'est la troisième fois qu'il annonce sa mort dans l'évangile de Luc. Il l'a fait dans Luc 9, 21 et Luc 9, 43. Et il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est un des grands reproches qu'on peut faire à la doctrine de la prospérité, c'est de refuser d'entendre ce que la Bible dit clairement. Que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Que s'ils n'ont pas épargné le maître, pourquoi épargnerait-il le serviteur? Et là, ils ont entendu, mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas écouté. Parce qu'il dit, les prophéties, c'est souvent un peu comme lorsque l'on marche dans la montagne, on monte sur un sentier, on voit le sommet de l'Archas, au-dessus de Saint-Martin-de-Vésubie, qui n'est pas loin. Mais quand on arrive sur ce qu'on croyait être la colline montant directement, on s'aperçoit qu'il faut redescendre et remonter. Et les visions, les prophéties souvent se télescopent dans l'esprit des prophètes. Ils voient la glorification de Jésus et en même temps ils voient la souffrance de Jésus-Christ. Nous avons le bénéfice de savoir un peu l'itinéraire. Et donc, on peut séparer, mais mettons-nous à leur place. Ils avaient entendu parler de ce Messie glorieux qui allait prendre le pouvoir, le trône de David. Ils montent à Jérusalem, ils disent, ça y est, on y va. Oui, il nous a parlé de choses un peu bizarres, qu'il devait souffrir et tout ça. Mais ce qui est remarquable, c'est que c'est l'état d'esprit de Jésus. Et on va lire la suite. Verset 35, « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui annonça que Jésus de Nazareth passait. Et il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Jésus monte à Jérusalem à l'occasion de la grande fête de la Pâque. Il a déjà guéri des personnes, fait des miracles avec les 10 lépreux. Il a parlé de l'enlèvement de l'Église. Il nous a dit de nous souvenir de la femme de Lot. Il nous a demander de prier avec insistance parce que lui n'est pas un juge unique, il est un bon juge. Il a comparé l'orgueilleux chef religieux, le pharisien, à celui qui est méprisé par tous ses semblables, celui qui récolte les taxes pour l'envahisseur romain, lui qui est le collabo. Et il nous dit que celui qui est justifié, c'est celui qui s'abaisse. Il nous dit de venir à lui avec l'esprit d'un, d'un petit enfant. Il nous dit que si nous avons des idoles, il faut les laisser et suivre Jésus. Que souvent, lorsque l'on croit respecter les 10 commandements, peut-être qu'on n'en respecte que 9 ou 9 et demi. D'autant que ces commandements, ils ne sont pas seulement nécessairement le passage à l'acte, éviter le passage à l'acte, mais ne pas entretenir un état d'esprit qui nous ferait passer à l'acte, comme la haine pour tuer, la concupiscence pour commettre l'adultère ou pour voler. Et Jésus sait qu'il monte souffrir à Jéricho, à Jérusalem. Il passe à Jéricho, une très belle ville, une des plus belles villes qui soit en Israël. C'est la cité des palmiers, c'est la ville que Marc-Antoine avait offerte à Cléopâtre. Un peu comme si notre président offrait Nice, la cité des palmiers, à quelqu'un à qui il veut plaire. Mais peu importe, ce qui me frappe, c'est qu'il est là, essayant de se préparer à cette souffrance terrible, à cet accomplissement de sa mission sur terre, et pourtant il reste disponible pour aider les autres, disponible pour sauver les autres. Ça, c'est une leçon pour moi de lorsque je sais que je suis préoccupé par des souffrances ou des situations difficiles, j'ai souvent pas le temps pour les autres. Je suis loin de cet amour agapé qui s'oublie pour encore demander aux autres « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Pas longtemps, même depuis hier simplement, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui m'a demandé il y a plusieurs mois de contacter quelqu'un qui a besoin de conseils et d'encouragement, qui n'est pas encore chrétien, une femme qui n'est pas encore sauvée. Je l'ai déjà appelée, on l'a invitée à passer, mais elle est tellement déprimée qu'elle n'a pas envie de voir du monde, elle n'a pas envie de venir toute seule ici dans un endroit où elle ne connaît personne. Et donc cette personne qui l'a connue par quelqu'un d'autre, qui ne l'a jamais encore rencontré, mais qui lui parle souvent et qui essaie de l'encourager, m'a appelé en me disant « Est-ce que tu pourrais faire l'effort ?» Et ma première réaction, c'est de dire « Mais écoute, je suis débordé, on a des personnes dans l'église qui ont besoin de soutien, d'encouragement, et je n'arrive même pas à faire ce qui est nécessaire dans ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu encore. J'espérais que quand on l'invitait, elle viendrait, qu'on pourrait la prendre en main, peut-être demander à d'autres personnes de l'encourager. Mais dans mon esprit, c'est j'en peux plus, la coupe est pleine. Peut-être certains d'entre vous se rappellent de Rami, un jeune étudiant qui est de Syrien, qui est passé ici il y a plusieurs années et qui venait au culte. Et il habite en Syrie, à Alep. Et j'ose même pas imaginer la situation de sa famille, de sa vie. Il n'y a pas longtemps sur Facebook, c'était son anniversaire, donc j'ai envoyé un petit mot en lui demandant comment il allait, que j'imaginais que ça devait être très dur, mais qu'on priait pour lui. Et il m'a répondu en me disant « Est-ce que tu peux nous aider à distance ?» Et j'ai dit « À distance ?» Donc j'ai laissé filer les choses. Et hier, il m'a renvoyé un petit mot en me disant « Écoute, tu me demandes des nouvelles, mais tu ne me réponds pas. » Et je lui ai envoyé une réponse en lui disant, écoute, j'ai plusieurs crises en ce moment et dès que j'ai un moment, je vais t'écrire. Alors c'est vrai que Jésus, c'est Jésus. Il a un cœur large comme ça. Il a l'Esprit Saint pleinement sur lui pour l'aider à faire sa tâche d'encouragement des autres. Je crois que c'est vrai aussi qu'on doit réaliser qu'on est un corps en tant qu'Église. Et la personne qui m'a rappelé le matin m'a dit je veux prier pour que vous ayez du soutien. Et des fois, c'est parce qu'on veut faire tout soi-même qu'on n'y arrive pas. Mais l'Église, c'est un corps. Jésus, il avait les ressources, l'Esprit Saint sans partage, on pourrait dire, dans le sens où il était complètement rempli de l'Esprit Saint en tout instant. Il exerçait les dons de l'Esprit, il pouvait discerner les choses. Nous avons des fois du mal à discerner les situations complexes qui nous entourent. Mais c'est merveilleux de voir que Jésus est tellement disponible. S'il était disponible alors qu'il allait au sacrifice suprême, non seulement la mort physique, mais la séparation d'avec le Père et le Saint-Esprit pour eux, avec qui il y avait une unité incompréhensible pour une éternité incompréhensible, à combien plus forte raison est-il disponible maintenant pour chacun de nous, pour nous en tant qu'Église, qui vivons des moments un peu difficiles, un moment un peu de découragement. Jésus s'approchait de Jéricho. L'évangile de Matthieu parle de deux mendiants, de deux aveugles qui mendiaient. Là, il est question d'un seul, peut-être c'était le porte-parole des deux, celui qui était le plus vocal. Et il y a une petite différence aussi avec l'évangile de Matthieu et de Marc. Là, c'est lorsqu'il s'approche de Jéricho. Dans les autres passages, c'est lorsqu'il quitte Jéricho. Alors certains disent, vous voyez que la Bible n'est pas fiable. En fait, il y a des explications possibles. Le fait que Jéricho avait été, vous vous en souvenez, dans le livre de l'Ancien Testament, Jéricho s'était écroulé, c'était une muraille, la muraille autour de laquelle Josué et les Israélites avaient tourné 7 fois et avaient crié, et les murailles s'étaient effondrées pour pouvoir rentrer en terre promise. Donc, il y avait une nouvelle ville de Jéricho qui avait été bâtie. C'est une ville donc qui est très basse, 240 mètres en dessous du niveau de la mer, une ville où il fait toujours bon. Les palmiers y poussent, une très belle ville. Et c'était aussi une ville où il y avait énormément de passages. C'était le long de la voie qui menait de l'Europe vers l'Afrique. C'était une des grandes voies de passage. Et c'est là qu'il y avait beaucoup d'aveugles, un peu comme les SDF qu'on va trouver dans les grandes artères de la ville. On va les trouver plutôt avenue Jean Médecin que rue Aimé Martin. Et il y a cet aveugle qui entend la foule. On nous dit que lorsqu'on est privé d'un sens, il n'avait pas le sens de la vue, on a tendance à avoir les autres sens exacerbés parce qu'il faut compenser. Donc l'ouïe va être très fine. Si on est aveugle, on va avoir le toucher aussi très sensible. Et sans doute qu'il entend la foule, il la sent, il sent les vibrations, il entend le bruit, et il demande qu'est-ce qui se passe. Et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth. « Jésus de cette ville de Nazareth qui passe. Et aussitôt, on voit que la foule n'a pas reconnu qu'en fait c'était le Messie. Mais lui, il va reconnaître quelque chose que les autres ne voient pas. Il reconnaît que c'est le fils de David. Autrement dit, ça aussi c'était un titre messianique. C'est celui qui allait régner sur le trône de David pour toujours. Fils de David, aie pitié de moi. Il n'exige rien. Il a cette humilité de ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas la sécu. Aie pitié de moi. Et souvent, lorsqu'on veut aller vers Jésus, ou qu'on veut que Jésus nous parle et nous ait une intimité avec nous, il y a des obstacles. Et souvent, ça peut être les gens les mieux intentionnés du monde. Ça peut être votre famille, des gens qui vous aiment. Ne te laisse pas influencer par ces fanatiques. D'ailleurs, je vais aller voir à la mairie si Calvary-Chapelle, ce n'est pas une secte. Alors, ce n'est pas mauvais de savoir où vous mettiez les pieds, mais sachez que chaque fois que vous allez aller vers Jésus, il va y avoir une résistance. Quelqu'un qui ne veut pas que vous le connaissiez, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous le suiviez. Et là, ce sont les disciples qui marchaient avec lui, disent à l'aveugle, « Chut, tais-toi, ne gêne pas le maître. » Et là, en fait, l'homme est tellement désespéré qu'il crie encore plus fort. Il y a une nuance entre les deux termes qui sont utilisés. Verset 38, il s'écria, et là il criait d'autant plus au verset 39. C'est le cri d'une femme enceinte. C'est le cri de quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui crie. Et là il est désespéré, il a ce cri de désespoir. Il répète, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus qui parle avec ses disciples, qui monte à Jérusalem, il s'arrête. Et on imagine, alors c'est bien de quand vous lisez la parole, surtout les descriptions d'événements, d'utiliser votre imagination, non pas comme le font certaines sectes, où on visualise le nirvana ou des choses comme ça, mais d'utiliser votre imagination pour vous mettre un peu dans la peau des personnages. Il y a cet aveugle qui entend ce brouhaha, qui c'est Jésus. Aie pitié de moi, David, fils de David, aie pitié de moi. Et puis d'un seul coup, quand Jésus s'arrête, le silence, le bruit des pas s'arrête. L'autre jour, on était avec Mitch, on rentrait, je crois que j'en ai déjà parlé, on rentrait de la conférence en avion et à Nice, plutôt à Venise, on avait l'embarquement qui avait été retardé et quand on est tous partis, on tirait tous les petits chariots sur les rampes d'accès à l'avion et on n'y pense pas, mais d'un seul coup, je me suis dit, waouh, c'est bizarre ce bruit. J'ai fermé les yeux et j'entendais tous ces petites roulettes et je me dirais, ce serait bizarre d'enregistrer ça et de le passer à quelqu'un en disant, est-ce que tu peux reconnaître qu'est-ce que c'est ? Et là, c'est un peu cette idée, d'un seul coup, il y a des bruits, un gros changement de bruit. Jésus demande qu'on lui amène cet homme. Et il vient, que veux-tu que je te fasse ? Jacques nous dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, c'est pour en profiter de façon égoïste. On peut penser que Jésus avait une idée de ce que cet homme aveugle voulait, mais c'est un peu comme s'il voulait que nous venions à lui avec des requêtes formulées. C'est un peu une façon de reconnaître notre dépendance et de montrer notre foi. Oui Seigneur, j'ai faim, j'aurais voulu que tu me donnes un peu des chips que tu as dans ton sachet là. Non, je crois que tu peux me rendre la vue. Que veux-tu que je te fasse, Seigneur, que je recouvre la vue? Et Jésus accède à sa demande. Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Alors, c'est pas parce qu'il a réussi à fabriquer assez de foi, comme des fois on pense que si on arrive à fabriquer assez de foi, on va changer le cours des choses. Être très superstitieux sur cette façon, dans cette approche. Quand j'étais enfant, je me souviens, j'en ai peut-être certains se souviennent de ce que j'ai déjà partagé cela. Avec ma jeune sœur, on habitait en Afrique, à Pointe-Noire à l'époque. Et quand on avait des projets de faire des excursions avec ma famille et qu'il fallait qu'il fasse beau, on priait quelque part pour du beau temps. Mais on avait très tôt cette conviction qu'en fait les choses ne se passent jamais comme on le souhaite. Donc on avait un raisonnement au second degré et on disait en s'endormant, il va pas faire beau, 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 il va pas faire beau. Donc on se disait, s'il y a un sort ou la réalité qui fait que souvent les choses n'arrivent pas comme on le veut, on va prétendre l'inverse de ce qu'on veut, comme ça le sort se trompera et on aura ce qu'on voudra. C'est pas la peine de faire ça avec Jésus. Vous pouvez venir et ouvrir votre cœur. Il veut même que vous lui disiez vraiment ce qu'il y a sur votre cœur. Un peu comme un enfant qui vient vous demander quelque chose. On leur dit, qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Non, utilise tes mots. Et Jésus me dit, utilisez vos mots. Et Jésus dit, parce que tu me fais confiance, ta vue t'est redonnée. On ne sait pas si le fait qu'ils disent recouvrir la vue, c'est peut-être qu'il était aveugle. Pas à la naissance et qu'il était tombé aveugle. On peut penser que c'est encore plus dur de vivre avec la cécité lorsque on a connu la vision. D'ailleurs, c'est le sens, la plupart des gens, peut-être que c'est votre cas, ont préféré perdre une jambe que de perdre la vue. La vue, c'est quelque chose absolument fantastique. Même les scientifiques les plus avancés aujourd'hui ne comprennent encore pas comment ça marche. La vue, c'est pas seulement l'œil, c'est pas seulement le principe optique, le foyer, la lentille du cristallin qui fait que les rayons de lumière qui peuvent être perçus se concentre sur des bâtonnets et des cônes au fond de la pupille, mais c'est après comment c'est transmis à une partie de notre cerveau. Et je me souviens, et je crois que c'est toujours le cas, dans les livres de médecine ou de sciences naturelles, il y a un grand point d'interrogation pour savoir comment ça se passe au niveau de l'écran. L'écran de notre vue. L'évolution est incroyable. C'est des substances chimiques qui nous permettent de voir. Si je vous dis, Tonio n'est pas là aujourd'hui, dans votre esprit, vous pouvez vous rappeler à quoi il ressemble. D'où ça vient ? Où est-ce qu'il est le MP3 ? Où est-ce qu'il est le disque dur où vous avez cette image ? Est-ce que c'est du JPEG ? Est-ce que c'est du wrong? C'est prodigieux. Et Jésus lui dit, voilà, recouvre la vue. Il y a des tas de mécanismes qui sont en jeu pour que ça fonctionne. Vive l'évolution, vive le hasard, les accidents cosmiques. Est-ce qu'on peut être assez stupide pour croire que l'œil n'a pas été pensé? Est-ce que vous avez déjà vu une caméra qui se définit toute seule? Et là, il est dit qu'à l'instant, il recouvra la vue. On dit que les gens qui ont des opérations de la vue ou des opérations... ça leur demande du temps de réapprendre à voir. C'est un peu comme quand on marche et qu'on a un accident et qu'on est bloqué, immobilisé. Il faut de la rééducation. Il est guéri, il recouvre la vue et suit Jésus. Et ce que j'aime bien chez cet homme, c'est que il suit Jésus et il glorifie Dieu. Il ne dit pas « J'étais tellement spécial que Dieu m'a béni » ou « J'étais tellement spécial que Jésus a dû me guérir ». Non, il suit Jésus, il est devenu un disciple, c'est ça? C'est de croire à ce que quelqu'un vous dit et de le suivre dans votre vie. Et il rend gloire à Dieu. Et les vrais miracles rendent gloire à Dieu. Et la conséquence, tout le peuple en voyant cela rendit louange à Dieu. On a eu dans notre ville il y a quelque temps un dénommé Benny Hinn contre lequel je vous ai mis en garde. Lui voudrait qu'on rende gloire à Benny Hinn, qu'il puisse rester à l'hôtel le plus cher de la ville avec la voiture la plus chère à louer pour pouvoir se rendre dans l'endroit le plus cher pour qu'on rende gloire à Benny Hinn. Rendre gloire à Dieu, lui seul, est digne de cette louange. Jéricho, ça va être la dernière conversion de Jésus avant d'aller souffrir à Jérusalem. Lisons ensemble à partir du verset 1 du chapitre 19. On est toujours dans la région de Jéricho. Il a approché de Jéricho. Là, on pense qu'il est peut-être entré dans le deuxième Jéricho. Il entra dans Jéricho et traversa la ville. Verset 2. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers, des collecteurs d'impôts, et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le fameux épisode de Zachée qui a fait la joie des moniteurs de l'école du dimanche, parce que c'est très visuel, on peut faire toute une petite représentation théâtrale ou avec des morceaux de feutre sur un tableau. Il y a un homme qui s'appelle Zachée, qui était le chef des péagers. J'ai dit tout à l'heure que c'était une grande voie de passage, la route qui passait par Jéricho. Et il y avait comme ça plusieurs endroits, trois endroits, dont Jérusalem et Jéricho, j'ai oublié le troisième, qui était le siège de l'autel des impôts, en quelque sorte. Et lui, Zachée, c'était un homme qui s'était hissé haut dans la société, mais qui était toujours méprisé. On a déjà parlé de ça pour Matthieu, le collecteur d'impôts, qui était devenu un disciple. Ces gens achetaient une fonction auprès de l'occupant romain pour les aider à collecter les impôts pour Rome. C'était déjà pas bien de travailler comme collaborateur de l'Empire romain qui occupait la Palestine. Mais le pire, c'est qu'en fait, ils profitaient de leur situation pour escroquer les gens et demander plus d'argent qu'ils ne devaient payer à Rome. Donc ils pouvaient s'enrichir assez rapidement, mais le prix qu'ils payaient, c'était le fait qu'ils étaient méprisés par le peuple juif. Non seulement ils collaboraient, mais en plus c'était des escrocs. Ils étaient vraiment considérés comme des moins que rien. Et lui était devenu non seulement péager, collecteur d'impôts, mais il était le chef. Donc il avait des gens qui travaillaient pour lui. Un peu comme ces systèmes de pyramide où vous pouvez vendre des articles, mais la bonne position, c'est lorsque vous avez des gens qui travaillent pour vous, et c'est des fois des systèmes de diffusion, de vente. Mais on sait que c'est plus on monte dans la pyramide et plus on peut recevoir d'argent. La responsable régionale de Tupperware a plus d'argent que la personne qui va vendre ses Tupperware chez elle ou chez ses amis. Et là, il était un de ses chefs. Il avait un problème, et c'est peut-être pour ça qu'il avait si bien réussi, entre guillemets, c'est qu'il était petit de taille. Et donc, il avait sans doute peur de se faire tabasser par moment. Et là, il avait entendu parler de cet homme, Jésus. Il avait peut-être entendu parler du fait qu'un de ses collègues, Matthieu, était devenu un disciple et participait, le suivait. Toujours est-il qu'il était curieux, il avait cette curiosité et il avait décidé, malgré sa position respectable de chef des impôts, il avait décidé d'aller monter sur un arbre sur le trajet de la procession ou de la visite de Jésus. Et il avait dû faire ça un peu avant. Peut-être qu'il n'avait pas voulu que les gens le voient monter dans l'arbre. Ce n'est pas très respectable pour un homme de sa dignité ou de sa responsabilité. C'est quelque chose qu'on fait quand on est enfant, ça, de grimper sur un arbre. Je me souviens que on habitait avant, on avait un bel olivier dans le jardin et mon fils Sébastien grimpait là et lisait des livres dans l'arbre. Il aimait bien espionner les autres enfants mais je suis jamais monté sur cet arbre. Avec James, lors d'une randonnée l'an dernier, on est monté sur un arbre. On a tous pique-niqué dans un arbre. C'était super, il n'y avait personne pour nous dire « Mais qu'est-ce qui fait le pasteur à grimper dans un arbre ?» Et James avait d'ailleurs eu des paroles prophétiques en me disant « Fais attention Pierre, tu as une fâcheuse tendance à tomber, à te faire mal. » Eh oui, James, qui m'entend et qui traduit, merci. Et Jésus arrive par là, il pense sans doute qu'il peut regarder sans être vu, mais il y a peut-être des gens qui ont déjà regardé, qui disent « Hey Zachée, qu'est-ce que tu fais là-haut ?» Toujours est-il que Jésus l'appelle par son nom et lui dit de descendre. Et puis il a cette parole bizarre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Des choses comme ça que Jésus sentait devait se passer. Et le même esprit qui inspirait ce sentiment et cette conviction à Jésus, il nous parle aussi. Il nous dit aujourd'hui, je dois appeler telle personne. Aujourd'hui, je dois prendre le temps de rendre visite à telle autre personne. Souvent, nous, on ignore, on remet au lendemain. Mais Jésus lui dit, il faut que je reste chez toi aujourd'hui. Et la réaction de Zachée, c'est la joie. Il est honoré, il est sans doute ravi de ce que quelqu'un ait envie d'aller chez lui. On sait que les publicains, c'est-à-dire ceux qui faisaient ces collectes d'impôts, se fréquentaient les uns les autres, mais le peuple en général était loin de vouloir s'associer à eux. Et là, cet homme dont il a entendu parler, cet homme célèbre, lui dit « Je veux venir chez toi ». C'est un peu comme lorsque c'était Giscard d'Estaing qui avait trouvé l'idée de s'inviter chez des gens et d'aller manger chez eux pour pouvoir être proche du peuple et d'avoir connaissance de leurs préoccupations. Mais c'était mal vu par le reste des Juifs. Il disait qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Et on peut suspecter que les chefs religieux étaient horrifiés, étaient indignés ou étaient heureux de le prendre en flagrant délit de fréquentation de personnes de mauvaises mœurs. On peut penser qu'il a fait tous ses efforts pour préparer quelque chose de bien, changer les draps dans la chambre. Il n'a pas dû seulement aller prendre des sandwichs chez McDo, il a dû essayer de faire cuire quelque chose de bon. Mais ce qui est remarquable, c'est que cet appel de Jésus à venir, Jésus savait qu'il y avait cet homme allait venir à lui, qu'il fallait qu'il lui parle. Et la décision de restituer, au verset 8, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Certains disent, peut-être il disait ça pour dire que c'était son habitude, qu'il n'était pas si mauvais. J'ai tendance à penser que c'est plus le résultat d'une vraie conversion. Il y a quelque chose qui est vraiment changé en lui. Et il est prêt à payer le coût de cette conversion. Et c'est à comparer, bien sûr, avec le pauvre jeune homme riche qui, lui, ne pouvait pas se défaire de ses richesses. Lui, il y a une vraie conversion qui s'est produite dans son cœur. Les idoles de son cœur, ce qui l'avait motivé pendant des années, ce qui lui avait permis de vaincre son complexe d'infériorité, devenir riche, bien qu'il soit de petite taille et que tout le monde le maltraite, il avait été vraiment touché au plus profond de son cœur. Et quand il y a une vraie conversion, il va y avoir un changement à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, que Zachée est devenu sans péché, mais il a une profonde conviction que ce qu'il a fait des choses, il a fait de mauvaises choses, et maintenant il doit faire amende. Ça me rappelle notre ami Fred qui travaille au service de la préfecture a eu l'occasion de parler avec une femme qui a avoué qu'elle avait triché sur ses déclarations auprès de l'ambassade de France en Afrique, je crois que c'était le Côte d'Ivoire, et qu'elle avait prétendu qu'elle était plus jeune qu'elle ne l'était pour pouvoir bénéficier d'un visa et venir en France, et maintenant qu'elle était installée en France et qu'elle était devenue chrétienne il y a depuis peu, elle voulait demander, avouer qu'elle avait triché et subir les conséquences de ce mensonge et de cette fraude, en quelque sorte, au visa. Le problème, c'est que c'est si rare, c'est que les responsables administratifs ne savent pas quoi faire d'elle. Ils disent, mais c'est... il n'y a pas de procédure pour des gens qui viennent dire qu'ils sont désolés d'avoir triché. Et finalement, je crois qu'elle a réalisé que ce qui comptait, c'était qu'elle, et Fred lui a expliqué, que ce qui comptait, c'est que dans son cœur, elle soit prête à le faire, mais que s'il n'y avait pas de service ou de procédure en place pour se faire pardonner, Dieu l'avait déjà pardonné. Et là, c'est la même façon. Là, il va au-delà de la loi, en disant, l'Ancien Testament prescrivait qu'on devait, si on avait volé quelque chose, on devait en restituer plus 20%, ou si on avait fait quelque chose de malhonnête en frappant les gens, il fallait restituer 5 fois plus, etc. Lui, il va au-delà de ce qui est demandé par la loi. Son argent n'a plus d'importance pour lui. Et il est prêt à donner aux pauvres la moitié de ses biens. S'il a fait tort de quelque chose, et il doit avoir une longue liste sur son ordinateur de tous les gens qu'il a escroqués, il va leur rendre le quadruple. Autrement dit, il laisse filer tout son argent parce qu'il a rencontré le Seigneur. Il a vraiment fait une rencontre de Jésus. Et Jésus nous appelle tous. Jésus vous a appelé. Il vous appelle peut-être encore aujourd'hui si vous ne lui avez pas donné vraiment votre cœur, s'il n'y a pas eu vraiment de changement dans votre vie, si le péché n'a pas, si vous n'avez pas eu ce sentiment de demander pardon, de restituer. C'est bien de demander pardon, c'est encore mieux de prendre des actes, de passer aux actes pour essayer de restituer les choses qu'on a détruites ou mal faites. Il y a des choses qu'on ne peut pas restituer. Le meurtrier ne peut pas rendre la vie à celui qui l'a assassiné. Mais il y a ce désir, cette conviction. Et sans doute que c'est les Juifs qui l'entouraient disaient qu'il avait tellement renié sa race en collaborant qu'il n'était pas vraiment un fils d'Abraham. Et Jésus dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus dit, c'est vraiment passé quelque chose dans le cœur de cet homme, il est venu à moi, il est descendu avec empressement. Et c'est beau la façon dont il est descendu de son arbre. On pense qu'un arbre comme ça peut mesurer, c'est un espèce de grand figuier qui peut mesurer jusqu'à 13 mètres de haut. Et Zachée, c'était ce chameau qui est passé à travers le trou de l'aiguille. Il était riche, mais avec Dieu, c'était possible. Et il a cette générosité qu'il montre maintenant, ce n'est pas ça qui lui a mérité le salut, mais c'est la preuve qu'il y a eu le salut. Dieu nous cherche, Dieu nous appelle. Jésus nous cherche, nous appelle, nous dit Pierre, nous dit Judith, nous dit Hervé, descends de ton arbre et viens me voir. Il veut nous transformer. Et ça, c'est encore une fois, alors que Jésus sait qu'il va aller souffrir tout ce que Ésaïe 53 avait prophétisé, entre autres, comme un exemple des prophètes qui avaient prophétisé cela. Jésus fait tomber les murs qui étaient dans le cœur de cet homme à Jéricho, encore une fois. Il y a des murs qui tombent. Il était curieux parce que quelqu'un lui avait parlé de Jésus. Il avait entendu parler de lui. On ne peut pas convertir les gens, mais on peut parler de Jésus, on peut les rendre curieux. Amen.